Alors pour la deuxième partie, je vais vous lire un petit passage du prophète Zacharie. Zacharie qui est symptomatique de ce qu'on trouve souvent dans l'Ancien Testament. Donc c'est au chapitre 9. Tressaille d'allégresse, fille de Sion, pousse des acclamations, fille de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi, il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne tout jeune. Il supprimera d'Éphraïm le char de guerre et de Jérusalem le char de combat. Il brisera l'arc de guerre, il proclamera la paix pour les nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités du pays. Voilà, on la lit régulièrement parce que l'entrée de Jésus à Jérusalem est un accomplissement de cette prophétie-là. Je pense que Zacharie a parlé pour... Lui, c'était au moment de la reconstruction de Jérusalem qu'il prophétisait. Moi, je pense que ça s'est accompli à son époque aussi. Il a dû y avoir quelqu'un qui rentrait, peut-être Zorobabel, ou vous voyez, le roi de l'époque, en fait, qui reprenait possession de Jérusalem. Et en tout cas, il y a deux parties dans cette prophétie. Il y a le côté très humble, qui est un pauvre petit roi monté sur un âne. Et il y a la partie après, il brisera l'arc, sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, il y a une illusion d'optique dans cette prophétie-là, qui est qu'on a la partie venue du Christ dans l'humilité et venue du Christ en gloire. Mais entre les deux, on n'a pas la partie qui nous concerne nous, qui est des venues du Christ peut-être intermédiaires. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de Juifs attendaient un Messie glorieux. C'est parce que beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament accolent les deux parties, quoi. Les derniers temps qu'on vit, en fait, derniers temps dans la Bible, ça veut dire temps de la patience qui s'écoule entre la venue corporelle du Christ, la venue historique du Christ, et puis le moment de son retour en gloire. Mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est ça, les derniers temps. Et ça induit un peu en erreur, parce qu'on se dit, c'est le dernier temps, on a l'impression que c'est la fin de la fin, quoi, qu'on est au bout du rouleau et que là, on va tomber dans le précipice, quoi. Et en fait, les derniers temps, c'est le temps de la grâce, quoi, où il y a quelque chose qui doit encore s'accomplir. Paul, il dit, je continue à souffrir ce qu'il reste de souffrir des souffrances du Christ. En fait, il dit ça aux Colossiens. On se dit, est-ce que le Christ n'a pas fini de souffrir? Et en fait, en tant que pierre vivante, en tant que membre du corps du Christ, on continue à finir le boulot du Christ, en la personne du Christ, finalement, en tant que membre du Christ, en fait. Le Christ en nous continue de déployer ses souffrances dans le temps, en fait. Voilà. Et on vit ce temps de la miséricorde où d'un côté, il y a des grâces de plus en plus abondantes. D'un autre côté, il y a l'iniquité de plus en plus importante. Et puis la coupe de la colère de Dieu qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit. Et à un moment, quand la coupe est pleine, il y a un assez qui retentit. Et là, boum, Dieu revient d'une manière un peu particulière. Et c'est ce qu'on appelle le jour du Seigneur. C'est le temps eschatologique. Voilà. Donc, si on doit parler en fait des temps, le temps donné aux hommes trouve trois accomplissements en fait. En fait, finalement, dans le temps du Père, dans le temps du Fils et dans le temps de l'Esprit-Saint, et qu'on trouve tous les actes de ce drame qui se joue, du combat entre le bien et le mal, du démon qui veut perdre les âmes et du Christ qui veut arracher des âmes aux démons, ce drame-là se déploie dans tout le temps. Et quand on dit, par exemple, dans l'Apocalypse, le démon est précipité sur la terre, en réalité, il est précipité sur la terre à chaque époque, en fait. C'est-à-dire que c'est pas à l'origine il est précipité sur la terre, ou c'est pas maintenant il est précipité sur la terre, c'est un peu à tout instant temps des hommes qu'il est précipité sur la terre, en fait, en quelque sorte. C'est comme si on était témoin aujourd'hui du moment où le diable a été dégagé du paradis parce qu'il était en train de tout casser sûrement, et Dieu lui a dit attends, c'est chez moi là, voilà, et il l'a poussé dehors en disant maintenant, ça sera réservé aux anges qui me suivent et qui veulent de ma lumière. Toi, tu ne veux pas de ma lumière, donc va-t'en, va sur la terre. Puis d'ailleurs, je vais me servir de toi pour que les hommes aussi soient libres et que s'ils veulent, ils te choisissent toi, et que s'ils me veulent moi, ils me choisissent moi. Voilà. Et c'est un petit peu ce drame qui se joue sur la terre, s'étire finalement. Et donc, on a le temps du Père, le temps du Fils et de l'Esprit Saint qui sont retracés dans les lettres aux sept églises notamment. Je vais lire par exemple à Smyrne, c'est la deuxième église. Tu écriras encore ceci à l'ange de l'église qui est à Smyrne. Ainsi parle celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort, qui est revenu à la vie. Je connais ta détresse et ta pauvreté, pourtant tu es riche. Je connais les calomnies de ceux qui se disent juifs. Ils ne le sont pas vraiment, c'est une synagogue de Satan. Sois sans aucune crainte pour ce que tu vas souffrir. Voici que le démon va jeter en prison certains des vôtres et vous mettre à l'épreuve, vous serez dans la détresse pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, au vainqueur, la seconde mort ne pourra faire aucun mal. » Donc là, on a la lettre écrite à la deuxième église, l'église de Smyrne. Donc c'est Apocalypse, les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Là, j'étais sur 2, versets 8 à 11. Et donc, on a cette fois ça, où il commence par une adresse à l'église. « Tu écriras à l'ange de l'église, machin truc. » Donc l'ange, on peut y voir l'évêque, à l'époque de Jean. Et puis on peut y voir aussi les sept anges qui veillent sur les sept époques du temps, en fait. Et comme il y a trois ères, il y a l'ère du Père, l'ère du Fils et l'ère de l'Esprit-Saint. Si je prends la première lettre de l'église à Éphèse, par exemple...
C'est assez proche de Joachim Fleur. Très clairement, l'hérésie.
En fait, non. L'hérésie de Joachim Fleur, c'est d'avoir donné des dates et d'avoir dit il y aura une période de gloire de l'Église en premier. En fait, ce qui a été condamné chez Joachim Fleur, c'est le millénarisme. C'est-à-dire, c'est fonder toutes ses espérances sur une période de gloire que doit traverser l'Église avant le retour en gloire du Christ, en gros. C'est ça. Et en fait... L'Église a condamné le millénarisme tel qu'il était formulé par Joachim Fleur, mais il n'y a pas eu de condamnation ferme. Joachim Fleur, en fait, a formulé quelque chose, mais pas d'une manière juste. Dans le Denzinger, il est dit, c'est-à-dire dans le recueil des actes de l'Église, il est dit « La doctrine du millénarisme tel qu'enseignée par Joachim Fleur ne peut pas être enseignée avec certitude. » C'est ça qui est dit, très exactement. Et c'est hyper nuancé. Je sais que, par exemple, quelqu'un comme Divo Barsotti, qui est un grand spirituel, il a dit lui-même qu'il pensait que, étant donné que le millénarisme, en fait, il y avait toujours eu une ambivalence sur le millénarisme, parce qu'il y avait la majorité des pères d'Église, par exemple, qui enseignaient le millénarisme, ce qui est quand même pas rien, quoi, et qui disaient très clairement il va y avoir une période particulière, mais on ne sait pas encore trop comment. Finalement, ce que l'Église a dit sur le millénarisme, ça aussi, je pense que c'est une erreur d'aujourd'hui, c'est d'absolutiser ce qui a été dit par l'Église en disant c'est une hérésie, alors que l'hérésie, c'est plutôt de vouloir dire je suis sûr qu'à de telle date à telle date, voilà ce qui va se passer, et que l'Église va être glorieuse avant le retour du Christ. En fait, c'est pas ça. Enfin, Joachim Fleur, il a eu des intuitions sur une certaine interprétation de ses lettres à cette Église, mais je dirais qu'il y a plein d'autres personnes... qui ont eu d'autres intuitions et qui l'ont formulé d'une manière différente. Je pense aussi à Barthélemy Ozhauser, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, qui vivait au XVIe siècle, et qui a formulé des choses qui, à mon avis, étaient beaucoup plus proches de ce qu'on trouve dans la Bible et ce qu'on peut vérifier par la confrontation avec ce qu'enseigne l'Église et avec la théologie, toute la théologie de l'Ancien Testament. Voilà. Il y a eu un amalgame qui a été fait dans la théologie de Joachim Fleur, c'est qu'au lieu de dire, finalement sur quel point spécifique on est sûr que c'est faux, on est en train de mettre à l'index tout ce qu'il a écrit, alors que il y a tout un tas de théologiens, même de pères de l'Église, qui il y a une partie de leurs écrits qui sont des fois un peu excessifs sur tel ou tel point, et pourtant on n'est pas allé mettre à l'index. Et voilà. Et donc je crois, moi, qu'il y a ces airs du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et ce n'est pas pour savoir à quelle date le Christ va revenir, c'est uniquement parce que je crois que c'est une manière qu'a Dieu de faire profiter pleinement les hommes du temps présent, et notamment en comprenant le moment spirituel, les grandes lignes de force spirituelle que l'humanité est en train de vivre. Donc, le monde a été créé en 7 jours. Dieu, par là même, a modelé l'homme, et il a fait en sorte que chaque jour soit un moyen de sanctification particulier. Et les lettres aux sept églises, je pense, retracent ce qui se passe dans le temps, avec les lignes spirituelles de ces différentes périodes, pour affermir les gens de ces périodes-là, et les aider à mieux discerner quels sont les signes des temps spécifiques à cette période-là. Voilà. Et donc la lettre à l'église d'Éphèse correspondrait aux premières époques du temps du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. C'est une lettre donc d'une église qui est plutôt l'église la plus importante de l'Asie mineure, Éphèse, où on parle de sept étoiles, où on parle d'un labeur, où on parle d'un chandelier qui éclaire. Et donc, dans le temps du Père, ça correspond à la période entre, disons, Adam et Ève et le déluge approximativement. Voilà. C'est-à-dire que c'est une époque d'ensemencement du monde, où il y a un coup d'envoi donné par Dieu au monde pour façonner le monde. Voilà. Et dans le temps de Jésus, il est également possible de déterminer des périodes, en fait, quand on essaie de remettre dans l'ordre un petit peu historiquement ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. cette période d'ensemencement, c'est la période au tout début de sa vie, en fait, vécue par la Vierge Marie et Saint Joseph, où il y a comme une capitalisation de toutes les grâces données par Dieu au monde pour créer quelque chose de nouveau, pour créer un monde nouveau, en fait. Et dans le temps de l'Esprit Saint, c'est la période apostolique où on a à nouveau un ensemencement du monde et où on trouve donc les disciples qui ont en main un feu dont le but c'est de le répandre sur la terre et de le faire fructifier et d'enflammer le monde avec l'Évangile, vous voyez. Et donc, si on regarde un petit peu tous les symboles qui sont donnés et qu'on étudie le sens qu'ils ont dans la théologie biblique, par exemple l'image du chandelier, l'image de la conversion, l'image des Nicolaïtes, etc., on voit que pour chacune de ces périodes, on peut mettre en lien les trois périodes du temps du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, par exemple les trois premières périodes, et éclairer les unes par les autres, en fait. C'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu l'idée de cette spirale où à chaque période, il y a eu des choses qui se sont produites et qui se produisent avec plus d'ampleur à la période d'après. Et ça éclaire des passages de l'Évangile et puis ça nous éclaire dans notre vie spirituelle parce que ça... On ne peut que s'émerveiller du fait, par exemple, que le Fils de Dieu, même dans sa vie, est en quelque sorte fait exprès de marquer ces sept temps-là et de se soumettre humainement à ces sept temps-là pour montrer quelque chose au monde, en fait. Et moi, je trouve ça très beau. La deuxième église, par exemple, on voit une pauvreté, on voit des persécutions, et je vous donnerai la couronne de vie, etc. Et donc, dans le temps du Père, c'est la période où il y a eu la pauvreté d'Abraham, des patriarches, etc., où il y a eu Moïse avec toutes les persécutions en Égypte. Voilà, et ça s'est terminé, par la libération d'Égypte. Dans le temps du Christ, c'est toutes les persécutions qu'il y a eu avec Hérode, notamment. Donc c'est au tout début de sa vie, en fait. C'est le temps au désert de Jésus qui en fait se charge à bloc spirituellement, enfin, ou on va dire plutôt qui montre l'exemple, parce qu'il était Dieu, mais il montre comment un homme se prépare au combat, quoi. Voilà. Donc il y a 30 ans de vie cachée, déjà. Et puis il y a un temps au désert, histoire de bien se booster pour la période qui suit. Et puis, dans le temps de l'Esprit Saint, c'est la période des martyrs. En fait, il y a eu toute une phase de martyrs où, dans la lettre, on parle des 10 jours. Vous serez dans la détresse pendant 10 jours. Et si on étudie un petit peu ce qui s'est passé, il y a eu 10 grands persécuteurs, 10 grands empereurs persécuteurs ou pères d'empereurs, parce que des fois ils étaient par deux, qui ont persécuté l'Église à cette période-là. Vous voyez. Et donc, je dirais que. L'intérêt, il n'est pas dans le fait de faire de l'intellect pour l'intellect. L'intérêt, il est dans le fait de vraiment voir, de mieux comprendre le plan de Dieu sur le monde. Et puis parce que les périodes entre elles se parlent, se répondent. Voilà. Et quand on voit le déluge, un petit peu ce qui s'est passé, on se dit que dans le temps du Père, il y a eu le déluge d'eau, finalement, qui a lavé le monde. Dans le temps du Fils, il y a eu le déluge de sang, avec le martyre du Baptiste et de Jésus. Et puis et dans le temps de l'Esprit Saint, finalement, il va y avoir la grande tribulation, où il va y avoir un déluge de feu, vous voyez. Et donc ces trois éléments-là, mis en perspective, montrent une action de Dieu qui va en s'amplifiant à chaque fois, et puis qui va à la fois sanctifier les saints, encore plus les saints, et qui va à la fois ramener tout un tas de gens en les secouant un bon coup, et puis finir de perdre ceux qui s'endurcissent, en fait. Voilà. Donc du coup, le temps, enfin, peut être étudié sous cette forme-là. C'est pas l'unique manière de compter le temps, mais c'en est une. Il y a d'autres personnes qui parlent de dispensation, je vois. Qui découpent le temps d'une manière différente. Et en fait, pour moi, c'est juste des manières différentes de voir les choses. Et chacune met en perspective des éléments qui sont nourrissants pour la vie spirituelle. En fait, moi, c'est de ça que je fais expérience. Parce qu'il y a une autre manière de mesurer le temps, c'est aussi en fonction du... Est-ce que c'est un temps de patience ou un temps où on devient pressant. Voilà. Le temps de la patience, c'est Dieu qui frappe à la porte de notre cœur avec beaucoup de douceur et qui n'ouvrira pas la porte tant qu'on ne lui ouvre pas. Voilà. Donc le temps de la patience, c'est c'est les âges qui s'écoulent et puis on a l'impression qu'il ne se passe rien de particulier. Les gens cultivent, se marient, boivent, mangent, etc. Et puis Dieu est patient avec eux et Dieu se révèle à ceux qu'ils veulent. Et puis ceux qui ont envie de faire le mal, ils font le mal comme ils veulent. Et arrive un moment où la coupe du Père se remplit et à ce moment-là, on a une accélération du temps. Comme si le temps se concentrait progressivement. Et cette accélération du temps, ça s'appelle l'eschatologie, en fait. L'eschatologie, ça marque le passage d'un moment à un autre, d'une période de temps à l'autre, finalement. À la fois d'une période à l'autre, entre les sept périodes des trois ères, et à la fois entre chacune des ères, en fait. Voilà. L'eschatologie, c'est par exemple, on voit quand le Christ est mort, et que c'est ouvert, en fait, la période suivante, il y a eu ce tremblement incroyable où le soleil s'est caché, où les morts ont ressuscité, où voilà, le déluge, c'était une période eschatologique, la destruction de Sodome et Gomorre, en fait, finalement, le jour du Seigneur dans la Bible, ça décrit une période où Dieu va secouer le prunier un bon coup pour mettre ses créatures en face d'eux-mêmes, c'est-à-dire soit en face de la sainteté qu'elle cherche à construire et puis des petites imperfections qui restent, soit en face de leur endurcissement et ces gens-là vont s'endurcir encore plus. Voilà. L'eschatologie, c'est ça. Si on regarde ce qui se passe dans les différentes périodes, moi, de mon point de vue, on serait plutôt à la fin de la cinquième période, c'est-à-dire dans l'église de Sardes. Donc, je vous lis. Tu écriras encore ceci à l'ange de l'église qui est à Sardes. Ainsi parle celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais ta conduite. Tu as la réputation d'être vivant et tu es mort. Sois vigilant. Raffermis ce qui te reste, ce qui est en train de mourir, car je n'ai pas trouvé que ta conduite soit parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la fidèlement et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Mais chez toi, à Sardes, il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas sali leurs vêtements. Habillés de blanc, ils marcheront avec moi, car ils l'ont bien mérité. C'est ainsi que le vainqueur portera des vêtements blancs. Jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie. Je me prononcerai pour lui devant mon Père et devant ses anges, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà. Donc, Sardes, c'est une ville qui est nichée au sommet d'un mont. Donc, on peut imaginer, bibliquement, Sardes, c'est un petit peu ceux qui se sont construits leur propre trône, en quelque sorte. Hein, c'est la période de ceux qui ont construit tout un tas de trucs et pas forcément avec Dieu. Voilà. Tu as la réputation d'être vivant mais tu es mort. Ben là, c'est assez clair. Finalement, il y a une dégradation progressive. Il y a quelque chose qui, en fait, on bénéficie de tout ce qui s'est passé depuis des siècles où, dans les sociétés, des choses se sont faussées progressivement et puis on se met à ne plus considérer les choses avec le regard de Dieu. On n'a plus forcément un regard juste sur qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, comment faire bien son travail, parce que on se dit, y a pas Dieu. Finalement, je suis tout seul, donc y a personne qui me regarde, donc je peux faire que je veux. Donc, tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. C'est vraiment la mort spirituelle. Voilà. Pour moi, c'est on arrive dans les temps où, enfin, on est plutôt à la fin de la période où il y a vraiment cette famine spirituelle où on voit dans le livre des Lamentations, il est dit que tous nos enfants meurent à tous les carrefours. C'est de l'inanition, quoi. C'est-à-dire que les enfants ne reçoivent pas le béaba de leurs parents sur qui est Dieu, quoi. Enfin, ce qui peut les sauver, c'est de connaître l'amour de Dieu et donc alors il y a tout un tas de gens de bonne composition, plutôt dans les agnostiques par exemple, ceux qui croient en l'amour mais qui ne croient pas que cet amour est en la personne de Dieu. Mais finalement aujourd'hui il y a cette mort qui règne. Tu as la réputation d'être vivant parce que extérieurement ça a l'air d'aller, mais intérieurement tu n'as pas cette huile qui te sera nécessaire pour le moment où je vais revenir. Voilà. Sois vigilant, raffermis ce qui te reste, parce que je n'ai pas trouvé que ta conduite soit parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la fidèlement et convertis-toi. Donc voilà, on est dans la fin du temps de la patience, et si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Donc le « je viendrai comme un voleur » est surprenant parce qu'on n'est que dans la cinquième période, d'après moi, je mets toute la réserve qui s'impose. Et donc on se dit, alors est-ce qu'on va connaître le retour du Christ en gloire? Et donc, et en fait, si on fait le lien avec tout ce que disent les prophètes aujourd'hui, avec tout le discernement qui s'impose, dont j'ai parlé un petit peu, il y a un retour du Christ qui est intermédiaire, qui ne sera pas encore d'une manière visible par tous, qui vient avec puissance et qui boot les ennemis en enfer et qui ramène à lui tous les enfants, tous ses enfants. C'est une venue intermédiaire. En fait, dans le Nouveau Testament, Jésus compare la venue de Dieu à l'entrée du voleur dans une maison qui va percer la cloison, ce qui est assez paradoxal. Ça, c'est typiquement biblique, c'est-à-dire le fait d'isoler une idée et de faire abstraction du fait que le gars, c'est un voleur, etc. Enfin, un peu comme le gérant, là, il loie le gérant, et nous, ça nous choque, parce que nous, on fait un amalgame, on se dit, il était méchant, donc faut le jeter, quoi. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on pense. Ben, dans la Bible, c'est pas ça. Dans la Bible, on prend un trait, et puis on force ce trait-là, et puis le fait qu'il se sent voleur, après tout, on se dit, bon, ben, voilà, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu viendra comme un voleur, c'est-à-dire, viendra au moment où on ne l'attend pas. Et il va forcer, donc il va faire un trou dans la cloison, et donc la cloison, ça ne peut être que quelque chose qui est autour de l'homme et qui ne devrait pas y être, c'est-à-dire ces petits péchés finalement, hein, parce que si on regarde au niveau des un des signes, par exemple, c'est les cavernes. Les cavernes où on dit les gens se cacheront dans les cavernes et ils diront aux montagnes cachez-nous. Et le cachez-nous, dans la Bible, très clairement, quand on regarde tous les mots grottes qui apparaissent, tous les mots cavernes, etc., on voit que c'est la méchanceté de l'homme. En fait, c'est on se cache dans ses propres imperfections et dans sa duplicité, et on va avec des gens qui sont un peu comme nous, qui vont cacher des trucs, dans un club échangiste, par exemple. Voilà, la porte est fermée et puis personne ne voit ce qu'on y fait. Cette caverne, bah, c'est les petits péchés qu'on fait, nous, dans notre côté. Et en fait, le Seigneur va venir, il va y avoir une venue, et qui va percer cette carapace-là, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Et donc, dans les prophéties d'aujourd'hui, si vous vous intéressez un peu à ça, pour moi, ça correspond à l'avertissement ou l'illumination des consciences. Alors, c'est quelque chose qui est assez renversant, parce que quand on relit la Bible, on voit qu'un peu partout, on évoque ça. Donc, le côté négatif, c'est... je perce la cloison et ça te fait mal parce que c'est comme si quelqu'un déracinait une mauvaise herbe et que moi j'étais, en admettant que je sois une bonne herbe, ça va complètement remuer la terre autour de moi. Ou si maintenant c'est mon cœur dans lequel il y a un jardin et qu'il y a des bonnes herbes et des mauvaises herbes, finalement l'arrachage des mauvaises herbes, ça va me faire mal au cœur parce que ça va faire comme une plaie. Et bien l'avertissement, c'est un peu ça, ou l'illumination des consciences, c'est-à-dire que c'est une venue du Seigneur, une venue miséricordieuse qui n'est pas encore le retour en gloire et qui est donnée à l'humanité pour prendre conscience de ses péchés, en fait. C'est-à-dire, c'est une lumière braquée sur notre carapace, sur le mur qui est autour de nous et qui va nous donner un temps où on va éprouver une intense douleur qui est décrite notamment dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Voici qu'il vient parmi les nuées et tous les hommes qui le verront, même ceux qui l'ont transpercé, en le voyant, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Voilà, ça provoque une lamentation. On trouve ça aussi dans Zacharie au chapitre 12, où il y a tous les clans qui se frappent la poitrine séparément. Séparément pourquoi ? Parce que c'est une venue du Christ individuel qui va frapper, qui va nous frapper le cœur et qui va provoquer cette douleur des péchés commis et il va nous montrer en vérité l'effet de nos péchés. Voilà. Donc moi j'ai insulté un tel, Pauline par exemple, et je verrai l'effet que ça a produit chez Pauline et je vais en souffrir. Voilà, c'est-à-dire que je verrai le Christ qui est en Pauline, qui a souffert dans le mal que j'ai fait à Pauline, tu vois. Et c'est ça le côté négatif de ce signe des temps-là, qui est l'illumination des consciences, l'avertissement. Et donc, l'illumination des consciences, c'est le côté positif, si j'ose dire. Les gens qui auront très peu d'imperfections, il y aura comme de la poussière autour d'eux qui va être balayée d'un coup, et ils auront une rencontre avec Dieu qui sera très forte. Un peu comme une extase en fait, et qui va affermir ces personnes-là, quoi. Et donc pour étudier comment sera l'avertissement, si on veut s'appuyer sur la Bible, parce que la Bible c'est vraiment la clé qui permet d'ordonner toutes les prophéties, comme je le disais, et les lettres aux sept églises, c'est la clé qui permet d'avoir un certain déroulement des faits. Quand je dis un certain, c'est-à-dire que ça ne donne pas les dates, mais ça donne plutôt un ordre. En fait, ça ordonne les choses pour pouvoir placer les signes des temps dans la bonne période, pour avoir une connaissance de l'imminence de quelque chose qui va arriver. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne connaît toujours pas le jour ni l'heure, mais on est comme Siméon et Anne qui savaient qu'ils verraient le Sauveur de leur vivant, quoi. Et ils attendaient dans le temple parce qu'ils avaient reçu ça de l'Esprit Saint, quoi. Ou comme les mages qui scrutaient le ciel, quoi, et ils se disaient, ouais, là, on sent que ça va arriver, quoi, voilà. Les lettres aux sept églises, c'est vraiment ce qui est donné au monde pour pour être alerte sur ce qui va arriver, voilà, pour accomplir la prophétie de Dieu ne fait rien sans en révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Et donc ses serviteurs les prophètes, c'est des gens qui prennent du temps pour prier, qui prennent du temps pour travailler dans leur vie spirituelle sur les petites imperfections ou les grosses imperfections, et puis vivre des sacrements, etc. Et l'avertissement, illumination des consciences, en fait, on peut le considérer à travers, dans le temps du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint, à travers tout un tas d'événements que je ne vous liste pas, je vous en ai donné quelques-uns, à travers aussi ce qui s'est passé au Tabor, quand les disciples ont vu Jésus en gloire, en fait, c'est un petit peu ça, on va se retrouver par terre, en quelque sorte. Ou à Gethsémani, les soldats se sont retrouvés par terre parce qu'ils ont il y a une forme de souffle, ils se sont trouvés en présence de Dieu, et donc l'illumination des consciences, c'est il y a Dieu qui vient me frapper et pour me montrer sa miséricorde. Voilà. Quand on pousse un peu plus loin, on trouve des liens très forts avec une intercession de la Vierge Marie, c'est-à-dire que le chapitre 12 qui parle de la femme drapée de soleil est lié à l'avertissement, parce que l'avertissement serait, d'après plusieurs prophètes, donc quand c'est plusieurs qui le disent, qui sont complètement indépendants, je tiens compte de ce qui est dit dans le Deutéronome, c'est quand il y a deux ou trois témoins, on peut considérer que c'est véridique. Donc l'avertissement serait une grâce du Seigneur obtenue par l'intercession de la Sainte Vierge. Et donc quelque part, l'arche qui apparaît dans le ciel, c'est aussi en fait le cœur de Marie uni au cœur du Christ, qui révèle aux hommes et aux femmes leurs propres péchés, et notamment grâce à Marie, il y a ce respect de la personne, enfin, ce respect, comment dire, Dieu respecte, mais il y a cette douceur maternelle qui accompagne l'avertissement, que le déploiement de l'avertissement, qui permet qu'on tienne le coup et puis qu'on rebondisse, quoi. Il y a plein de messages qui parlent de ça, mais à chaque fois, c'est d'une manière un petit peu, c'est des éléments pris un peu séparément, et c'est dur de les relier, en fait, entre eux. Et donc pour les relier, c'est vraiment la Bible qui est le pivot, en fait. Plus on étudie la Bible, plus on a les clés pour faire le lien entre ce qui est dit dans les différentes prophéties et aussi faire le tri dans certaines prophéties. À mon avis, ça s'est pas inspiré parce que, comment dire, c'est en contradiction avec le grand courant majoritaire, quoi. Et c'est pour ça que les sept périodes, pour moi, c'est un courant extrêmement majoritaire. Enfin, c'est-à-dire que dire, c'est... Il y a un gros problème dans cette théologie-là. Pour moi, ça renie ce qui est écrit dans la Bible et ce qui est dit par la grande majorité des prophètes aujourd'hui, quoi. Ce que je lis, c'est quand même qu'après, il reste deux périodes. Alors, les périodes, elles ne seront pas forcément aussi longues parce que chaque période n'a pas la même durée. Donc, les effets de l'avertissement, c'est quoi ? C'est l'avertissement, un des effets de l'avertissement, donc ça va être de prendre conscience de ses propres péchés. Et donc d'avoir envie d'aller vers Dieu. Il y aura un respect de la personne qui fera que les gens ne se diront pas forcément c'est Jésus-Christ la vérité. Il y en a qui dira je sais que Dieu existe. Voilà. Dieu accueillera les gens dans l'état où ils sont aujourd'hui. Moi je pense, mais ça c'est moi qui le dis, qu'il y aura à ce moment-là une unification de l'Église qui va donner de la puissance à l'Église, la puissance que l'Église a perdue en se divisant. Et donc si on relie l'avertissement à la femme drapée de soleil, il y a la couronne de 12 étoiles qui montre l'unité, quoi. Et, enfin, pour moi, il y a tout un tas de choses qui vont dans le même sens et qui montrent qu'il y aura une unité plus grande qui sera donnée à l'Église pour la période de persécution qui va suivre, parce que pour le coup, le vêtement blanc, c'est complètement un signe de persécution, quoi. On le trouve dans la deuxième période, la période des persécutions. C'est un peu, finalement, en lavant votre robe dans le sang de l'agneau, dans le bain de la persécution, dans le bain de sang, vous devenez des saints, vous recevez la robe blanche et la couronne de vie, la deuxième période, c'est ça qu'il dit. Pour moi, nous, on va connaître une période de persécution. Et pourquoi je pense que c'est imminent ? C'est parce qu'il y a eu le week-end dernier le signe de la femme drapée de soleil comme conjonction céleste. C'est-à-dire que, comme les mages, ils ont eu... nous, de notre côté, on a eu, en plus de la constellation du Lion qui contient 9 étoiles et qui est au-dessus de la constellation de la Vierge, il y a eu un alignement de 3 planètes supplémentaires ce week-end. Donc qui faisait que 9 plus 3 égale 12, et donc il y avait la couronne de 12 étoiles au-dessus de la constellation de la Vierge. Après, nous, dans notre hémisphère, c'était pas visible la nuit. Je me dis, l'hémisphère sud, ils ont une grâce particulière, et peut-être que c'est comme les mages, Dieu a balancé ce signe-là en se disant, l'hémisphère nord, avec leur science, ils pourront très bien, avec les cartes du ciel en ligne, vérifier, voilà. Mais, donc du coup, pour moi, c'est un signe clair que, préparez-vous, la grande tribulation va arriver, et relevez la tête, c'est maintenant, quoi. La grande tribulation, c'est-à-dire l'accélération du mal, c'est-à-dire une grande persécution, c'est-à-dire tout un tas de trucs qui sont décrits dans les chapitres de l'Apocalypse. Je vais dire un mot sur la période d'après, parce que ce qui est bluffant, c'est la période d'après, en fait. La période d'après qui correspond dans le temps du Père à après l'exil. En fait, nous, ce qu'on va vivre aujourd'hui, c'est un peu l'exil, en quelque sorte, l'exil à Babylone, voilà, quand ils se font tous déporter. Et le temps d'après, c'est le temps de la reconstruction. C'est à partir du moment où Cyrus, Darius, et enfin tous ces rois disent « c'est bon, vous pouvez retourner », il y a Esdras, Néhémie, Zorobabel, et puis ils se mettent à reconstruire tout. Et donc le temps d'après, après tous ces cataclysmes et cette venue du intermédiaire du Christ, finalement, c'est une période où ceux qui sont encore vivants construisent le monde et réévangélisent le monde parce qu'il y a tout un tas de gens qui ne connaîtront pas Jésus, quoi. Je parle sous couvert de décrypter la lettre à Philadelphie, hein. Je peux vous l'argumenter de manière biblique, mais ça prendrait trop de temps. Et de mettre ça en lien avec des prophéties et toujours avec plusieurs prophéties à la clé qui disent, qui vont dans le même sens, qui sont unanimes là-dessus, quoi. Et on le relie à ça, quoi. Et donc la dernière période qui sera la période de la venue de l'antéchrist. Et moi je pense qu'il y aura on attend encore deux antéchrists finalement. Un antéchrist que je pense qu'on connaîtra à notre période qui va être en la personne d'un homme. Voilà. Je pense qu'à la fin de la dernière période qui sera donc à la fin des temps, à la fin des fins au moment du retour en gloire, moi je pense que ce sera Satan qui reviendra en personne en fait. C'est-à-dire que ce sera un antéchrist encore plus... encore plus méchant que celui que nous on va connaître, qui sera déjà très méchant, quoi. Voilà. Mais c'est des suppositions, avec toutes les réserves qui s'imposent, et je ne suis pas assez avancé dans mon étude. J'ai pas encore étudié dans le détail l'antéchrist. J'ai collecté des éléments, mais j'ai pas encore. Là, je suis à la fin des lettres aux sept églises et des sept sceaux. Est-ce que ça vous intéresse qu'avant de terminer, je vous donne quelques clés sur les sept sceaux qui suivent les lettres aux sept églises? Donc, dans l'Apocalypse, on trouve au chapitre 6. On trouve au chapitre 6, alors oui, parce que l'Apocalypse, c'est des septénaires. C'est-à-dire que Jean, il décrit tout un tas de tableaux. Donc, je vous parlais de la femme drapée de soleil, qui est le premier des sept signes de la grande tribulation. C'est-à-dire que si on étudie la femme drapée de soleil, il y a aussi le dragon, il y a aussi le faux prophète, il y a aussi les deux témoins, et tout ça, en fait, si on les étudie, ça parle de notre époque à nous. Si on regarde, par exemple, les sept trompettes, c'est-à-dire qui correspondent... je pense aussi à notre période, ça va être en fait tous les fléaux qui se déchaînent à travers le temps et qui vont se déchaîner de manière particulièrement forte lors de la grande tribulation. Voilà, avec les cataclysmes et tout, machin. Et qui ont aussi une interprétation spirituelle, parce que s'arrêter à l'interprétation humaine qui est juste la météorite, machin, en fait c'est imparfait dans le sens où ça ne rend pas compte de ce que le Seigneur a voulu donner à travers ces textes. Donc si je prends, je reviens en arrière, donc entre la lettre aux sept églises et les sceaux, en fait on a un petit intermède où on voit une liturgie céleste, une porte ouverte, et je fus saisi par l'esprit, un trône était dressé dans le ciel, et il y avait les vêtements blancs, et puis il y avait le vieillard, et puis les 24 qui étaient là. Et donc c'est là qu'on a les quatre esprits qui sont décrits par saint Irénée comme étant les quatre évangélistes. Et en fait, l'erreur courante, je pense, dans l'interprétation, et c'est pour ça que c'est dur à interpréter, c'est que on se dit le premier sceau, ça va peut-être être la première période, le deuxième sceau, la deuxième période, etc. Et puis on chasse le petit intermède, il y a deux éléments, en fait, entre les lettres aux sept églises et les sept sceaux. Et en fait, pour moi, le premier intermède, il correspond à la première période, parce qu'on parle des quatre évangélistes, on parle d'un ensemencement du monde, on parle des 24 anciens qui se tiennent devant le Seigneur, qui sont l'ancien Israël avec les 12 patriarches et le nouvel Israël, enfin l'église avec les 12 disciples. Donc ce qui se passe, cette liturgie céleste là, c'est un petit peu comme si on mettait la caméra au ciel au moment de la première période de l'église, en fait. Et c'est extraordinaire. Donc après, on a l'ange qui dit, mais qui est digne d'ouvrir les sceaux, etc. Les 24 anciens qui se lamentent parce que personne n'est jugé digne d'ouvrir les sept sceaux, voilà, qui vont suivre. Et il y en a un qui est digne de recevoir les sceaux, c'est le Christ, qui a toujours été identifié dans l'interprétation de ces textes-là, comme le martyr qui, par son martyr, avait obtenu d'ouvrir ses sceaux, en fait. Et on se demande ce que c'est que ces sceaux. Et ça correspond à la deuxième période, parce que les martyrs, le martyr du Christ, uni au martyr de cette deuxième période, qui est la période des grands persécuteurs, en fait, entre 300 et juste avant la période des pères de l'Église, qui correspond à la troisième période, et bien tout ce bain de sang a obtenu au monde de pouvoir, que Dieu envoie des prophètes qui donnent au monde les explications des sceaux qui suivent, en fait. C'est-à-dire que les sceaux, c'est des choses décrites de manière imagée par Jean, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire parce que c'est surnaturel. Et bien, par le sang de Jésus, et de tous les martyrs qu'il y a eu dans la deuxième période, eh bien, on a obtenu, l'humanité a obtenu la grâce d'avoir des prophètes envoyés qui expliquent l'ouverture de ces différents sceaux. Et donc sur les sept sceaux, on a ensuite donc le premier sceau, pour le coup, l'un des quatre vivants qui dit avec une voix comme celle du tonnerre, viens, et il y a un cheval blanc, celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée, et il sortit en vainqueur pour vaincre. Voilà. Et donc ça, beaucoup de gens disent, ça, je pense que c'est le Christ, c'est les évangélisateurs, parce que c'est la première période, etc. Et en fait, moi, dans la Bible, l'arc, c'est quasiment tout le temps une arme de guerre, quoi. C'est pas l'épée de la parole de Dieu, c'est le petit arc un peu mesquin qui tire des flèches parce que il n'ose pas aller au corps à corps. Et puis, il tire des flèches, les brandons enflammés dont parle Saint Paul dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 6, les traits de Satan qui nous atteignent, qui sont les vices, finalement, qui sont les tentations, etc. Pour moi, c'est clairement le faux prophète. Et donc, ça correspond non pas à la première période, mais à la troisième période, qui est la période, en fait, dont je n'ai pas parlé, mais qui est la période de l'illumination du temps. Ça correspond au Sinaï et dans le temps du Père. Donc, avec l'illumination de l'humanité, avec les 10 commandements qui sont quelque chose de pur pour élever l'âme, normalement, qui sont le serment sur la montagne dans le temps du Fils, qui est le grand discours. Juste en méditant ça, je dirais qu'on aurait presque tout ce qu'il faut pour notre vie spirituelle. Enfin, c'est extraordinaire, juste de méditer sur tout ce que Jésus dit sur la montagne, et qui sont la période des pères de l'Église, extraordinaire pour l'Église où tous ces théologiens qui étaient des grands priants et qui étaient qui écrivaient des choses extraordinaires, ont irrigué toute l'Église de leurs enseignements, quoi. Vous voyez, donc cette troisième période-là. Et donc, le cheval blanc a été envoyé par un des vivants qui dit « Viens ». C'est-à-dire, pour moi, c'est un des anges, c'est un ange qui autorise quelqu'un à venir. Donc Jésus, il ne va pas attendre qu'on lui dise « viens ». Donc c'est plutôt les faux prophètes. En fait, tous les faux prophètes qui sont nés dans cette période-là et dont le paroxysme, c'est le premier déploiement du chiffre de la bête, 666, qui correspond à la date de mise par écrit du Coran, ou la période de mise par écrit du Coran. Parce que le Coran, pour ceux qui l'ont étudié, est issu d'hérésies qui se sont propagées, de gnoses en fait, qui ont été combattues par tout un tas de théologiens, et qui, dans la région de la Mecque et autres, ont fait florès, et puis peut-être que les gens du coin n'ont pas croisé de cathos super dynamiques, et qui ont été des bons témoignages, et du coup, cette mauvaise plante des petites hérésies là, a éclos et a donné un grand arbre, et aujourd'hui c'est une religion. Où est l'hérésie? C'est que ça nie la divinité de Jésus, ça nie la Trinité, qui sont quand même la base, et ça se proclame la suite, en fait, l'accomplissement de la foi catholique. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de lire ce qu'il y avait avant, et encore dans le Coran, c'est marqué à plein d'endroits qu'il faut quand même lire, mais bon. Parce que la bonne religion, c'est nous, finalement. Premier sceau, c'est ça, pour moi, c'est l'islam, même si. Je dirais que si on va jusqu'au bout pour ce signe des temps-là, le jour où la Vierge Marie va se pointer avec l'illumination des consciences, je pense qu'il y aura une conversion massive des musulmans qui vont être encore plus fervents que nous, quoi. Qui vont être les ouvriers de la dernière heure, et nous on s'étonnera qu'ils reçoivent le même salaire que nous, et alors qu'en fait les mecs ils ont le double de foi par rapport à nous, parce qu'ils attendent que Jésus revienne dans son humanité. En fait, ils savent que Jésus va revenir, mais ils pensent que Jésus n'est qu'un homme, que ce sera un prophète qui reviendra, quoi. Et en fait, les mecs, ils sont déjà branchés sur Dieu, quoi. Ils pensent déjà à Dieu toute la journée. Et même s'il y a plein de mauvais musulmans, il y a aussi tout un tas de gens qui essaient de vivre leur foi humblement et qui pensent à Dieu. Dans l'islam, on trouve des choses qui sont mauvaises. Et donc, Dieu, il s'arrête pas là-dessus. Il dit, il dit aux musulmans, Dieu est amour. Donc, Dieu dit aux musulmans, quand il montera au ciel, est-ce que tu as pratiqué les cinq piliers de l'islam? C'est ça qu'il va lui dire. Ça mesure à lui. Aux musulmans, c'est les cinq piliers de l'islam. Donc, un bon musulman qui aura bien pratiqué les cinq piliers de l'islam et qui aura, avec amour, il sera accueilli par Dieu. Donc, mon discours n'est pas du tout pour juger les musulmans, c'est plutôt pour dire que dans les signes des temps, il y a aussi le fait que l'islam contient des mauvais germes qui ne sont pas inspirés de Dieu. En fait, on est sauvé par le baptême, mais le baptême, c'est pas uniquement le baptême chrétien, le baptême, c'est aussi la souffrance. C'est-à-dire que Dieu peut ramener des gens à lui par la souffrance. Et donc, un musulman qui passe par la souffrance, en fait, pour moi, c'est pas l'islam. En fait, c'est Dieu qui passe pour sauver quand même les personnes. Voilà. Je continue, je vais essayer d'aller plus vite sur les autres quand même. Le sceau suivant, le cheval couleur de feu, pour enlever la paix. Donc, c'est quelqu'un qui apporte la guerre. Donc, 666 x 2, c'est 1332. Guillaume d'Ockham, En fait, cette période-là, il y a eu la naissance, l'éclosion de philosophies qui ont changé radicalement le point de vue sur le monde, en fait, en mettant des séparations strictes, en disant ça c'est du domaine de Dieu, ça c'est du domaine de la foi, et puis petit à petit en introduisant les germes de l'athéisme, en fait. Voilà. Et donc ce cheval qui enlève la paix, en fait, c'est dès lors que notre intelligence est utilisée pour des choses coupées de Dieu, et on le voit bien, par exemple un dirigeant d'entreprise qui refuse Dieu absolument et qui refuse l'amour, a beau croire en l'homme, il va se tromper sur certaines choses qui va faire qu'il aura du mal à établir la paix dans son entreprise, quoi. Voilà. Après, je juge personne, mais du coup, ce cheval ravit la paix sur la terre. Donc, ça correspond à la quatrième période, en fait, la période de la royauté, en fait, qui correspond à notre Moyen-Âge à nous. Le troisième sceau est donc le cheval noir qui tenait à la main une balance et qui provoque la famine. Correspond à 1998, 666 x 3. Et pour moi, c'est très clairement l'avènement des médias et des écrans. Donc, ce qui provoque la famine, c'est, enfin, le sens le plus intéressant, c'est la famine spirituelle dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on écoute la radio dans sa voiture, eh ben, on diminue nos chances de pouvoir accueillir le Seigneur dans notre intériorité. Quand, pareil avec Internet, enfin, en fait, toutes ces choses-là, les écrans, très vite nous volent du temps, ou volent du temps à Dieu. En fait, utilisent le temps qui est donné par Dieu pour détourner notre fort intérieur de Dieu. Et donc ça provoque une famine spirituelle. Et donc l'époque qu'on vit est l'aboutissement de tout ça. Et quand ce sceau s'ouvre, le monde est préparé à tout ça. Et le peu qu'on dit, le peu qu'on vit, le peu qu'on témoigne est hyper riche pour les gens qui nous entourent. Voilà. Donc troisième sceau. Quatrième sceau. Et donc là, le cheval verdâtre. Et c'est la mort. Voilà. Et donc là, pour moi, ce sceau-là s'accomplit également aujourd'hui, en fait. En vertu de l'accélération du temps qui est la nôtre, parce qu'on est dans un temps eschatologique, c'est que comme il y a eu ces trois chevaux de mort qui sont arrivés période après période, et que tous les éléments sont réunis finalement pour que tout saute. Et donc cette mort, qu'est-ce que c'est? C'est une fois que se sont écroulés les remparts de la conscience humaine, eh ben on est en mesure de créer des lois qui sont en fait qui vont faire commettre des péchés contre l'Esprit Saint de manière sans qu'on s'en rende compte. Et donc il faut savoir que le plan du nouvel ordre mondial, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui est cette organisation qui essaie en ce moment de se mettre en place, je ne sais pas si elle l'est déjà, je pense que oui, et qui voudra prendre le contrôle sur le monde, qui est un antéchrist en fait, a un plan en 5 points. Il y a l'avortement, il y a le mariage gay. Il y a l'adoption par les homosexuels, il y a la gestation pour autrui, et il y a l'euthanasie. Voilà. Et je pense que cet ange de mort numéro 4 correspond à ça, et pour notre période aussi. Le sceau suivant, alors c'est pas un démon là, c'est plutôt les âmes de ceux qui sont sous l'autel, qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu, qui crient vers le Seigneur. Et donc en demandant vengeance pour tout ce sang répandu en fait. Et donc ça, c'est l'intercession des saints au ciel. Et je pense que ce sceau, toujours en vertu de cette accélération eschatologique, va s'ouvrir, enfin, quand je dis il va s'ouvrir, en fait, à chaque fois, dans ce que j'étudie, il y a des signes très clairs dans les trois périodes qui se correspondent, par exemple dans la cinquième période du Père, de Jésus, et on retrouve ces sceaux-là, en fait. On retrouve cette action du démon, ou cette action des amis de Dieu, donc là en la personne des saints, qui vont donc soit venger finalement tout ce sang, et donc les cataclysmes qui vont se produire sont notamment résultent de la prière des saints. Voilà. On peut penser à Élie qui a fermé le ciel en disant je veux pas qu'il pleuve parce que le peuple se pervertit. Et ben, c'est un petit peu ce qui se passe là. En fait, ça c'est un déploiement dans la période du Père de ce qui se passe à notre époque, c'est-à-dire où des fois c'est des personnes qui vont demander que le malheur vienne pour punir les méchants en gros. Voilà. Enfin, pour punir les méchants, pour que le dessein de Dieu s'accomplisse d'une manière plus forte, quoi, pour que Dieu pousse au monde un bon coup. Voilà. Et donc le deuxième effet, effectivement, c'est que les saints se sanctifient encore plus. On retrouve l'avertissement dans ce sceau-là, finalement. Enfin, la grâce de connaître ses péchés avec la douleur que ça occasionne, et puis aussi le fait d'être affermi, et que après l'avertissement, en fait, les chrétiens auront un... comment dire, enfin, puis tous les hommes de bonne volonté recevront des grâces particulières, comme lors de la transfiguration, enfin, d'après moi, pour savoir quelle est leur mission, pour que leur mission se précise, voilà. Et bien, on le saura de manière plus précise suite à cette période-là. Après, le sixième sceau, c'est le grand tremblement de terre, le soleil qui devient noir, etc. Donc là, on voit le ciel qui disparaît, les rois qui se cachent dans les grottes, etc. Donc là, c'est complètement l'eschatologie à pleine balle. Et après, Puis on voit les anges debout aux quatre coins de la terre qui retiennent les quatre esprits. Et là, il y a les sept trompettes. Et les sept trompettes, c'est vraiment le paroxysme de ces cataclysmes qu'on trouve en fait, qu'on trouve dans ce temps eschatologique qui, je pense, va se déployer à notre époque et qui se reproduira aussi lors de la dernière venue du démon. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, j'ai eu l'impression d'être bref. Enfin, parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire et on peut pas tout dire. Et sur les signes des temps, j'en ai ébauché quelques-uns, mais c'est court pour dire tout ce qu'il y a à dire dessus. C'est que la meilleure préparation qu'on puisse avoir pour se préparer au retour du Christ, c'est pas de faire des réserves, en fait, chez nous. Voilà, c'est déjà d'apprendre à vivre d'une manière plus simple. Poser la question, et si j'ai pas d'électricité, comment je me débrouille? Est-ce que j'arriverai à prendre une douche froide sans crier? Est-ce que je pourrais partager avec mes voisins? En fait, c'est s'habituer à avoir une vie avec une certaine sobriété, et puis se sanctifier, en fait, travailler à sa sanctification, comme je dis, c'est un peu pompeux de dire ça, c'est un peu orgueilleux, mais en fait, c'est ça, c'est de dire, Seigneur, après tout ce que j'ai à faire, moi, c'est de prendre des temps pour prier, de profiter des armes spirituelles d'aujourd'hui, parce que aujourd'hui il nous est donné, enfin je sais pas, si on fait des recherches sur un verset biblique par exemple, on a tout un tas d'explications données sur internet qu'on peut lire, on peut discerner, il y a tout un tas de bibles avec des notes, il y a tout un tas de, si on se pose une question, il y a le catéchisme de l'Église catholique, il y a des bouquins de théologie, enfin aujourd'hui on est encore dans la période, dans la fin de la cinquième période où c'est le temps où le Père laisse la marmite bouillir en quelque sorte, c'est-à-dire laisse les méchants aller jusqu'au bout de leur méchanceté, et laisse les bons aller jusqu'au bout de leur démarche pour aller vers le Seigneur, pour recevoir, et parce qu'une fois que l'époux sera enlevé, c'est-à-dire une fois que ça va commencer d'une manière plus forte, qu'il y aura des tremblements de terre, qu'il y aura des persécutions, etc., ça va être plus difficile pour nous de prendre du temps pour prier, de se former à la parole de Dieu, de se former à chasser les démons, etc. Quoi, voilà, donc c'est maintenant qu'il faut apprendre quelles sont les armes spirituelles, et puis demander au Seigneur de nous donner ce qu'il veut nous donner, quoi, parce qu'il y a une imminence, quoi. Pour moi, le signe céleste, c'était un signe précurseur que ça va arriver dans pas longtemps. Et c'est pas le seul. Enfin, si je me permets de l'ouvrir sur ce sujet-là, c'est parce qu'il y a aussi Paul. Il dit, on dira en cette période-là, paix et sécurité. La paix et sécurité, depuis 2009, c'est le slogan de l'ONU. Si vous allez sur le site de l'ONU, sur la page d'accueil, c'est marqué paix et sécurité. Et c'est vrai que du coup, on se dit, c'est flippant en fait. C'est nous, la génération qui va connaître ça, quoi. Quand le Christ a parlé au chapitre 24 de Saint Matthieu de tous les cataclysmes, etc., effectivement, il parlait de l'eschatologie telle qu'elle se trouve dans les différents, dans les ères du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et dans les différents temps, parce que dans les sept temps, on peut trouver des périodes eschatologiques également, et donc il parlait de la chute de Jérusalem, il parle aussi de notre période, quoi. Et donc ça, il faut le décrypter. Et voilà, donc il y a beaucoup de signes qui montrent aujourd'hui que c'est nous, et que, parce que faut relever la tête, faut se dire, le Seigneur, il va nous guider, et voilà. Merci pour votre attention.